Le truc des bons élèves. On peut se demander ce qui fait qu'un enfant est un bon ou un mauvais élève. En effet, des enfants vivant dans des conditions tout à fait correctes peuvent être tout aussi mauvais élèves que des enfants défavorisés. À l'inverse, des enfants vivant dans des conditions défavorables peuvent être parmi les meilleurs. La différence tient moins aux conditions de vie, bien qu'il ne faille pas les négliger, qu'au fait que les bons élèves suivent spontanément leur intuition, car ils sentent parfaitement ce qui leur convient le mieux et les aide à apprendre. Certains utilisent sans le savoir les effets de la lumière sur les capacités mentales, en fixant le ciel lumineux ou un mur blanc qu'ils voient de leur fenêtre. La lumière, ainsi réfléchie, leur permet de faire des fausses veines. Le docteur Lefebure en fit très jeune l'observation.
Voici son expérience. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais un cancre et j'en souffrais beaucoup moralement. C'était à tel point qu'à 11 ans, le professeur avait voulu me mettre définitivement à la porte du lycée et je n'avais dû d'y rester qu'à l'intervention énergique de ma grand-mère. Or, après les vacances de Pâques de ma 12e année, je devins subitement bon élève, et d'une façon si surprenante que mes camarades me portèrent en triomphe dans la cour. Que s'était-il donc passé pendant ces fameuses vacances de Pâques? Nous avions déménagé. J'habitais avant dans un appartement où il n'y avait jamais de soleil. Le nouvel appartement était merveilleusement ensoleillé, et je pris l'habitude d'aller assez souvent travailler avec le soleil sur le livre, bien que certains prétendent que j'allais me faire mal aux yeux. Or, il n'en fut rien, mais bien au contraire, c'est à partir de ce moment que je fus bon élève. Il y a là, je crois, quelque chose d'avant-coureur de mes recherches sur le phocéisme. L'on remarquera que l'on comprend mieux un texte et qu'on le retient mieux s'il est fortement éclairé. Si c'est avec une lampe, il faut veiller à ce qu'elle soit dans un réflecteur en métal profond, pour ne pas avoir de rayons directs dans les yeux. Si c'est avec le soleil que l'on éclaire son texte, se tourner de trois quarts, pour que le livre soit éclairé. Mais par contre, la lumière des tubes luminescents est trop pâle. On observera que l'on a du mal à travailler avec cet éclairage. Par la suite, je fus toujours meilleur en sciences, et à 17 ans, je sortis dans les premiers du PCN, physique, chimie, sciences naturelles, alors année préparatoire à la médecine, bien que l'on était plus de 400 candidats à cette session et que j'étais parmi les plus jeunes.
Cette expérience vécue montre que les enfants cherchent naturellement à profiter le plus possible de la lumière. Or, la majorité des habitations, appartements ou pavillons, sont très mal éclairées et ne laissent pas entrer le soleil. C'est donc l'habitude de lire avec le soleil sur le livre qui a permis au futur docteur Lefebure de réussir ses études. Beaucoup d'enfants apprennent leurs leçons en se bouchant les oreilles. Ils ne font pas cela uniquement pour s'isoler des bruits ambiants, comme on le croit, mais parce qu'ils ont très tôt observé qu'ils apprennent plus rapidement et qu'ils ont davantage d'idées et beaucoup plus d'idées nouvelles. Sans le savoir, ils utilisent instinctivement l'acouphène, l'équivalent du phosphène au niveau de l'audition. D'autres enfants introduisent systématiquement un rythme dans leur étude. Certains apprennent leurs leçons en les chantant, car ils ont constaté que rythmer ainsi leurs cours facilite considérablement la mémorisation. Énormément d'étudiants apprennent leurs cours en marchant de long en large. Ils affirment que s'ils restent sur place pour étudier, ils n'arrivent pas à retenir leurs leçons. Ils font intervenir un rythme physique qui stimule la mémoire et la pensée. Or, en Grèce, les disciples du philosophe Aristote pratiquaient la marche tout en réfléchissant et en étudiant. On appelait les disciples d'Aristote les péripatéticiens, ce qui veut dire les promeneurs. Cependant, d'autres écoles, avant la sienne, avaient porté le même nom, ce qui montre que dans l'Antiquité, les Grecs connaissaient l'importance du rythme et qu'ils l'utilisaient dans leur pédagogie. C'est pourquoi autant de génies sont issus de leurs écoles. Ils avaient constaté l'influence du rythme physique sur le travail mental.
Le rythme joue un très grand rôle dans le développement intellectuel de l'enfant et plus tard de l'adulte. Nous avons déjà observé que la pensée possède un dynamisme extraordinaire. On peut également constater qu'elle évolue de façon cyclique au cours de la journée et que l'on passe sans cesse d'un thème de réflexion à un autre et que ces thèmes s'enchaînent pour un peu plus tard revenir au premier plan et ainsi de suite. On peut alors observer l'organisation spontanée de la pensée. Chez les étudiants qui ont un devoir à faire en classe dont ils ne connaissent pas le sujet. Lorsqu'ils rendent leur copie, on sent qu'ils ont souvent un sentiment d'insatisfaction. Ils ont l'impression qu'ils auraient pu avoir des idées plus intéressantes, mais qu'ils n'ont pas su les exprimer. À la suite de ce devoir, ils n'ont plus aucune raison de penser au sujet, puisqu'ils ont rendu leur copie. Pourtant, plusieurs heures après, ou encore le lendemain, ou plusieurs jours plus tard, les idées jaillissent spontanément sur ce sujet, et elles leur auraient permis de faire un devoir superbe. Seulement, il est beaucoup trop tard.
Ce processus nous intéresse car il montre que la réflexion continue à s'organiser alors même que l'on n'a plus de raison de réfléchir à ce thème. En fait, cela montre que la réflexion a été lancée, mais que ce n'est que plus tard que l'on en récolte les fruits. Le cerveau continue à traiter les informations et les idées, alors même qu'on ne pense plus au thème à développer. Il travaille sans que nous en ayons conscience. Et brusquement, les idées viennent à la conscience, tandis qu'on ne s'y attendait pas. C'est pourquoi, lorsque l'on a à travailler sur un sujet connu, il vaut mieux le relire de temps en temps afin que les idées commencent déjà à s'organiser à notre insu. De cette façon, on aura lancé la réflexion sur le thème et les idées qui viendront seront beaucoup plus riches et plus nombreuses que si l'on s'y prend au dernier moment pour réfléchir au sujet. Le fait de réfléchir à l'avance sur un sujet à développer permet de lancer les voies neurologiques de la réflexion. On peut encore vérifier l'importance du rythme dans la pensée chez les étudiants qui rêvent qu'ils échouent à leur examen, alors qu'ils ont déjà passé les épreuves et parfois qu'ils savent qu'ils les ont réussies. En effet, pendant la préparation de l'examen, à un moment ou à un autre, l'étudiant sent qu'il n'aura pas le temps de tout réviser ou encore il laisse volontairement une matière de côté. De ce fait, il se dit qu'il n'aura pas assez de points et qu'il va rater son examen. Il continue ses révisions et à la moindre difficulté, cette idée lui revient à l'esprit. Il y repense donc. Lors de son travail, l'idée d'échec revient de plus en plus souvent, d'abord inconsciemment, puis l'étudiant l'alimente consciemment, en évaluant les difficultés qu'il rencontre. Cette idée s'auto-entretient, puisque la pensée revient de façon cyclique, mais en plus, elle est renforcée par la réflexion consciente. Il s'effectue donc un cumul de cette pensée, et c'est beaucoup plus tard qu'elle se redéclenche, mais, comme après l'examen et connaissant les résultats, l'étudiant n'a plus aucune raison de repenser à cette idée d'échec, c'est dans le rêve que l'idée peut s'exprimer. Il y a donc là accumulation et amplification d'une pensée par la répétition consciente et inconsciente et il se passe exactement la même chose avec les étudiants qui rêvent qu'ils réussissent à l'examen. La seule différence par rapport au précédent, c'est qu'ils ont entretenu l'idée de réussite.
Il se produit le même phénomène chez les personnes qui ont des idées noires. En effet, Avant d'avoir des idées noires, la personne qui en est victime a tout d'abord vécu une situation difficile qui l'a rendue triste ou morose. Cette idée s'auto-entretient. Elle revient de plus en plus souvent à l'esprit, jusqu'à ce que la personne les entretienne consciemment. L'accumulation par la répétition est de plus en plus importante. Et progressivement, ces personnes se trouvent prisonnières d'une véritable gangue d'idées noires, souvent accompagnées de dépression. À l'extrême, elles n'arrivent plus à échanger avec leur entourage, et ce dernier a également du mal à communiquer avec elles. Il existe une façon de briser ce cercle infernal grâce au phosphène. Il suffit pour cela de penser à ces idées noires ou obsessionnelles pendant la présence du phosphène. Lorsque le cumul est important, il arrive que ces pensées paraissent amplifiées et plus nombreuses. En réalité, l'accumulation est telle que l'on prend conscience de tout ce qui était sous-jacent à la conscience et qui ne s'exprimait pas. C'est en fait un bon signe, car cela montre que cette énergie accumulée commence à se libérer. On remarque alors que dans le flot des idées noires survient une idée plus optimiste. C'est alors cette idée que l'on remet dans un phosphène. À nouveau, le flot des idées sombres reprend et une ou deux idées plus agréables surviennent. Ce sont ces idées que l'on met dans un nouveau phosphène. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les idées noires aient complètement disparu. On peut consacrer un quart d'heure par jour à cette séance, et l'on s'aperçoit que dans la journée, on a davantage d'idées optimistes, accompagnées d'une sensation de bien-être. Grâce au phosphène, qui permet aux rythmes cérébraux de s'organiser et de se structurer, la pensée se trouve favorablement influencée, et même épurée. On voit donc que les phosphènes ont des applications psychologiques très importantes. Cela explique également l'effet équilibrant que les phosphènes ont sur les enfants. Il y a donc là une loi de physiologie importante. Toute répétition mentale provoque un cumul de pensées de même nature. Le docteur Lefebure a ainsi mis en évidence l'action structurante du rythme sur le fonctionnement de l'encéphale et sur la pensée. Vous remarquerez que les enfants sont capables de réciter toutes les publicités qu'ils voient ou entendent, mais qu'ils ont beaucoup de mal à retenir leurs leçons. Cela est dû à ce que, à l'école, les rythmes cérébraux ne sont pas respectés. Les publicitaires ont bien compris l'importance du rythme sur la mémoire. En effet, les slogans sont courts, très rythmés et répétés souvent. Autrefois, l'alphabet et les tables de multiplication étaient précisément appris de façon rythmique et scandée, et tous les enfants les retenaient. Il est donc nécessaire de réintroduire les rythmes dans l'étude.
Revenons à l'audition alternative et à l'alternophone dont nous avons déjà parlé. Les premiers effets de l'audition alternative ont été expérimentés en automne 1960 dans le laboratoire de cervoscopie du docteur Lefebure, sur lui-même pendant plusieurs mois et sur des animaux. Mademoiselle Bellet fut le premier chef de service d'un laboratoire d'État à vérifier l'alternance des phosphènes doubles dans ce laboratoire. Puis, le docteur Philippe Ancos, directeur du contrôle médical sportif et ses collaborateurs. Ensuite, le docteur Jacquet, directeur du centre du CNRS de l'Institut national des sports à Vincennes, ainsi que monsieur le professeur Dell à l'hôpital Henri Roussel.
Effet de l'audition alternative. A priori, on pourrait penser qu'écouter des sons en alternance devrait être désagréable. Cependant, alors que les sons réguliers, intenses et simultanés des deux oreilles énervent le sujet au point d'en être intolérable, les mêmes rythmes en audition alternative non seulement ne gênent pas le sommeil, mais même le rendent plus réparateur. L'utilisation de l'alternophone dans l'étude et les révisions favorise une meilleure compréhension. Au cours d'une conversation en audition alternative, on note une augmentation de la compréhension des mots, pour le rythme de 10 secondes par côté. Cette augmentation est maximum vers le troisième quart d'heure. Cette augmentation de la compréhension des mots à ce stade de l'expérience est en moyenne de 6%, mais elle est bien plus forte lorsque ces mots appartiennent à des phrases que lorsqu'ils sont isolés ou constituent des logatomes, c'est-à-dire des sons articulés vides de sens. C'est donc bien sur la compréhension supérieure que l'audition alternative agit. Cette expérience a été réalisée au laboratoire central des PTT de Massy-Palaiseau. L'attention est soutenue, sans fatigue. Le travail intellectuel est de meilleure qualité et mieux organisé. Cet appareil est très utilisé par les étudiants pour préparer leur examen. Les matières, même difficiles, deviennent plus attrayantes pendant l'audition alternative. Cette dernière développe donc une plus grande motivation pour l'étude. La mémoire est grandement améliorée, les idées sont plus claires et le travail est effectué plus rapidement qu'à l'ordinaire. L'imagination et la créativité sont stimulées. Les idées nouvelles sont beaucoup plus fréquentes et de meilleure qualité. L'alternophone n'est pas un appareil médical, c'est un appareil pédagogique. Mais la bicyclette, par exemple, n'est pas non plus un appareil médical, ce qui n'empêche qu'elle peut avoir quelques applications dans ce sens. Ceci se fait sentir notamment dans le cadre de certaines formes de rééducation. L'alternophone est très efficace pour faire disparaître les problèmes de dyslexie, de dysorthographie, certains troubles du sommeil et le bégaiement.
Extrait d'une lettre d'un parent. J'ai tardé à vous répondre, mais je voulais pouvoir vous donner des résultats certains relatifs aux progrès réalisés par mon fils grâce à l'alternophone. Vous savez qu'auparavant, il ne pouvait dormir qu'avec des somnifères et que déjà, Jacques n'avait plus besoin de calmants pour la nuit et que, de plus, il n'était plus sujet à ses fous rires sans motifs apparents. Je puis ajouter qu'il ne bégayait presque plus, il y a là une grosse amélioration. L'audition alternative issue de l'étude des phonèmes doubles régularise les rythmes cérébraux. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de l'alternophone dans les centres phonémiques.
Vous avez à présent en main un outil extrêmement performant et nous ne doutons pas que vous obtiendrez des résultats considérables en utilisant régulièrement les phosphènes, à condition toutefois de faire l'effort élémentaire d'étudier ou de travailler avec les phosphènes. Un jour, un jeune homme qui rendait visite au docteur Lefébure lui annonça qu'il avait utilisé les phosphènes pour préparer son examen, mais sans résultat, car il avait échoué à ses épreuves. Très surpris, le docteur Lefébure lui demanda de quelle manière il avait travaillé avec les phosphènes. Le jeune homme expliqua que chaque jour, il avait fait des phosphènes en répétant « Je veux réussir mon examen. Je veux réussir mon examen. Je veux réussir mon examen. » Ne faites donc pas comme ce jeune écervelé qui a cru que la suggestion lui permettrait de réussir son examen sans avoir à s'investir dans l'étude. Les phosphènes facilitent et améliorent l'étude. Ils ne remplacent pas la nécessité de travailler. Mais grâce à eux, vous possédez des atouts qui vous permettront de résoudre bien des difficultés de tous ordres.
Autre chose, n'hésitez pas à mettre vos amis dans la confidence, qu'ils aient des problèmes dans leurs études ou non. Vous les aiderez ainsi à réaliser leurs objectifs et vous leur faciliterez la vie dans tous les sens du terme, puisqu'ils gagneront du temps et de l'énergie. Il se peut que dans votre entourage, vous ayez des personnes qui seraient très heureuses d'avoir une méthode de développement de la mémoire, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, ou qui cherchent à développer leur créativité, mais se heurtent à divers problèmes qui leur paraissent insurmontables. Faites-leur connaître l'école du docteur Lefebure. Les nombreux témoignages que nous recevons nous prouvent que les phosphènes répondent réellement et efficacement à ce qu'en attendent professeurs et étudiants. L'école du docteur Lefebure est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider dans les applications pratiques du phosphénisme. Nos conseillers techniques sont là pour vous informer, vous conseiller sur le meilleur matériel, son installation et les formations. Vous pouvez également bénéficier de cours individuels ou collectifs ou participer à des stages sur l'ensemble des travaux du docteur Lefebure.
Sur la phase B, nous vous proposons une conférence du docteur Lefebure. Fin de la 8e étape.
Nous allons faire l'expérience de base. C'est sur ça que vous retenez aujourd'hui, celle qui vous sera le plus utile. C'est le mélange entre la pensée et le phosphène. Parce que faire des phosphènes seuls ne développe rien, ou très peu de choses. Ça agit favorablement sur la vue, si on respecte les normes d'éclairage que nous donnons cette nuit. C'est à partir du moment où on associe une pensée au phosphène, qu'il se produit un développement cérébral, intellectuel, qui suit une courbe exponentielle des résultats faibles au début, mais qui vont sans cesse en s'amplifiant. Parce que, bien que dans le cerveau, il y ait plusieurs milliards de neurones, que chaque neurone a dans les 3000 dendrites, c'est-à-dire comme des extrémités de fils téléphoniques pour entrer en compte, des fiches téléphoniques, entrer en contact avec les autres neurones. Malgré cette multiplicité des contacts, au point de vue physiologique, le cerveau est très cloisonné. Par exemple, un marin qui est sur un bateau depuis 10 ans n'a plus de mal de mer, mais le jour où il change de bateau, il a le mal de mer comme un débutant. Il s'était habitué à un rythme, mais pas du tout endurci contre le mal de mer en général. Alors, c'est pour vous dire que si vous vous contentez de faire des phosphènes, vous faites une expérience purement sensorielle, semi-sensorielle, qui n'agit favorablement que sur la vue. Mais si vous pensez en même temps, vous créez des contacts neurologiques qui vont favoriser le transport de l'énergie lumineuse transformée en énergie phosphénique jusque dans le mental. Le phosphène joue le rôle de transformateur, d'accumulateur de l'énergie lumineuse. Il rend plus facilement sous forme d'énergie mentale si vous mettez la fiche téléphonique de la pensée au milieu du phosphène. Sinon, il ne se passe rien. Alors, vous allez choisir la pensée que vous voulez. Ça peut être une carte de géographie, ou ça peut être un tableau qu'il y a chez vous, par exemple. Non. On va faire les trois expériences, pensée visuelle, auditive, et puis les deux associées après. Hein? Donc, image mentale visuelle. Et on va bien la faire, parce qu'il vaut mieux ne pas faire trop de choses, mais que le peu qu'on a fait soit convaincant. Je suppose que vous avez choisi cette image mentale visuelle. Avec une image où il y a pas mal de détails, hein? Vous y repensez maintenant pendant 30 secondes. Maintenant, vous fixez la lampe. Alors, je vous rappelle que vous clignez comme d'habitude, ni plus ni moins, pour que les conjonctives ne se dessèchent pas. Si vous pouvez miniaturiser la pensée dans le façade, ah oui, j'aurais dû vous dire, vous y pensez déjà pendant que vous puissiez là, alors qu'il n'y a aucun inconvénient, bien entendu, au contraire. Bon, maintenant, vous repensez à ce que vous avez choisi, détail par détail et par moment l'ensemble. Vous me prévenez quand il sera rouge, très foncé ou bleu. Bon, c'est à peu près fini pour tout le monde, hein. Parce que pour cette expérience-là, nous arrêtons. Bon, alors, on peut rallumer, là. Alors maintenant, dans les mêmes conditions que tout à l'heure, encore 30 secondes, vous reprenez la même pensée, hein. Bon, alors, comment avez-vous trouvé votre pensée entre les trois fois? Est-ce qu'il y a eu des différences entre les trois fois? Différence, justement, qu'est-ce qu'il y a en somme qu'il y a d'abord une observation à faire, n'importe laquelle, sur cette expérience?
Pas toujours le temps, pour moi, de visualiser la chose et en même temps de garder le suspense.
Bon, alors, première réponse, j'en parlerai après ça. Qu'est-ce qu'il y a encore quelque chose à remarquer là?
Moi, je vois mon poster, il est là.
Oui, parce qu'on a rallumé un peu vite pour abréger les expériences, n'est-ce pas? Mais il va passer en 2-3 minutes, là. Oui, on a rallumé avant, je ne suis pas rouge de colère, rassurez-vous.
C'est normal qu'il soit détaché, le phosphène.
Comment sera détaché?
Parce qu'il y a un rond, il y en a plusieurs.
Parce que pour abréger dans le papier toutes les expériences, c'est parce que vous avez bougé les yeux pendant la fixation de la lampe. Alors il y a eu plusieurs façons. Il y a une petite expérience qui le montre, tout ça, mais là je vais vous donner une teinture de tout aujourd'hui. Mais surtout, ce qui n'est pas la teinture, c'est l'expérience fondamentale, pour que vous puissiez continuer chez vous.
Ce qu'il y a, c'est embêtant, c'est au milieu, avant que ça devienne tout rouge, ça reste blanc, ça part, le rouge vient, ça repart.
Ah, mais il faut laisser ça, parce que, deuxième, je répondrai à ça après, deux questions. Parce que je fais comme les chansonniers, vous savez, qui ramassent les rimes, il n'y a pas de sens de poésie. Hein. Alors je ramasse les questions et après je fais un discours.
Mais plus difficile de visualiser l'objet en question, mais avec
Bon, et après.
C'est le repasser. Bon, et
les détails augmentent.
Ah, vous avez trouvé qu'il y a davantage de détails, oui.
En ce qui concerne, le crochet reste toujours jaune, oui. Avec un anneau rouge.
Oui, ben parce que chez vous, il a duré un peu plus longtemps.
Ah, oui,
c'est ça qu'il devait y avoir, oui. Mais, oui. Bon, oui, voilà. Et comment avez-vous trouvé la netteté de la pensée? Elle est plus nette pendant le passé. Bon. Alors, voyez-vous, pour les personnes qui disent, on voit un petit morceau et un autre morceau de la pensée. Mais je vous fais remarquer une chose, c'est que quand vous pensez à une carte de géographie d'habitude, vous ne représentez jamais l'ensemble. Vous représentez tantôt l'extrémité, tantôt l'autre, parfois un bref instant des contours, et il y a un mouvement perpétuel dans votre pensée. Et les lois des pensées et des phosphènes sont les mêmes. Alors, vous avez vu que le phosphène s'agite, il y a du vert, du jaune. Mais, c'est tout simplement parce que les lois des pensées et des phosphènes sont les mêmes. Seulement d'habitude, vous ne faites pas attention que quand vous pensez à une carte, vous représentez une extrémité, puis une autre, et puis un autre moment au milieu, qui a un mouvement perpétuel. Mais là, vous avez eu le phosphène qui vous a éclairé votre vie intérieure. Et c'est pourquoi vous avez observé un phénomène qui se passe toujours en vous. Quand vous pensez à une carte de géographie, mais que d'habitude, vous ne faisiez pas attention. Alors, il vous a éclairé votre vie intérieure, et il a aidé votre attention à se fixer sur la pensée, puisque vous avez remarqué un phénomène que d'habitude vous n'aviez pas remarqué. Alors, vous, ces deux personnes, ont observé qu'au début, ça paraît plus difficile. Bon, mais parce que, d'avoir la pensée en même temps que le phosphène. Parce que quand vous apprenez à aller en bicyclette, ou que vous apprenez à nager, les premiers temps, vous ramassez des bûches ou vous buvez des tasses. C'est simplement quand vous avez créé les réflexes que la promenade devient agréable. Et là, l'expérience prouve qu'il faut un mois pour que, un mois de travail quotidien, mais pas très longtemps chaque jour, pour avoir créé les contacts neurologiques entre la zone qui fabrique le phosphène occipital, j'ai dit tout à l'heure, les zones de la pensée frontale et pariétale. Et ensuite, comme ces contacts neurologiques sont créés, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme des fiches de téléphone, une fois qu'elles sont en place, on les y laisse. Alors le courant passe tout seul, l'opération est beaucoup plus facile. C'est pourquoi, au début, ça paraît un peu difficile, ben, c'est comme tout. Employant un mot plus simple que tous ces discours, c'est un apprentissage. Mais dans les cas heureux, chez certaines personnes, souvent celles qui ont fait du mixage phosphénique sans savoir, étant enfant, le contact s'établit plus vite. Et alors, c'est pour cela que vous avez ici, parmi vous, quelques personnes qui ont déjà ressenti que la pensée est plus dense et plus ferme. Parce que dans les cas heureux, dès les premières expériences, il se produit comme une combinaison chimique entre la pensée et le phosphène. Quand vous combinez un acide et une base, le sel qui en résulte est plus dense que l'acide et la base qui lui ont donné naissance. Et là, c'est la même chose, vous avez un résultat qui est plus dense que la pensée et que le phosphène. C'est pourquoi j'ai employé l'expression de sel phosphénique. Mais n'allez pas faire comme le conseil de l'ordre. Les médecins me demandaient, alors vous vendez un nouveau sel, et les pharmaciens, vous leur en avez parlé. Je prends l'expression sel phosphénique, naturellement, dans un sens tout à fait philosophique. L'équivalent sur le plan mental d'une opération chimique. Alors, voilà que, dès la première expérience, vous apercevez que la pensée est plus dense et plus ferme. De sorte que, au point de vue pédagogique, c'est extrêmement simple. Vous allez, par exemple, lire un texte, et puis, oui, on va faire la pensée liquide maintenant, ensuite, vous le répétez pendant la présence du phosphène, mentalement ou même à haute voix, parce qu'à haute voix, vous réentendez votre propre voix, ça aide à graver. Et puis, ce qui est très important, vous avez la mémoire des mouvements des muscles vocaux, le larynx, les joues, la langue. Bon, là, il y a une mémoire musculaire, une mémoire des mouvements des muscles, qui est extrêmement importante dans beaucoup de circonstances de la vie, que nous ne cultivons pas suffisamment méthodiquement, mais nous l'utilisons tout le temps. Par exemple, pour l'accent dans une langue étrangère, pour la machine à écrire, nous pouvons l'utiliser aussi pour n'importe quel texte. Alors, si nous récitons en haute voix, on n'a pas besoin de hurler, il suffit de faire à voix basse le mouvement des lèvres, n'est-ce pas? Eh bien, si vous avez le facial en même temps, l'énergie qui se dégage du facial va aller vers les muscles et fortifier la mémoire musculaire en même temps. Alors là, bon, on va faire une expérience purement mentale. Sinon, si chacun prend une phrase, ça fera une cacophonie qui attirerait l'attention des voisins. Vous allez prendre donc un air de musique, une récitation, une formule d'algèbre, ce que vous voulez. Le bruit du vent dans les feuilles, le bruit de la mer, et vous allez vous répéter mentalement cette formule-là pendant la présence du phosphène. Mais nous refaisons l'expérience d'abord 30 secondes. Vous répétez la pensée sans phosphène. Bon, vous fermez les yeux et vous répétez la pensée pendant la présence du phosphène. Si ça vous est possible d'imaginer le son qui vient dans l'intérieur du phosphène, c'est encore mieux, mais ce n'est pas indispensable. Vous en êtes à quelle couleur à peu près? Bon, alors nous rallumons là. Alors, quelle remarque avez-vous à faire sur cette expérience-là?
On est plus concentré.
Ah, vous sentez qu'on est plus concentré?
Ah oui, qu'au début, là, c'est... Oui. Le blanc est parti plus vite, ça a allé plus vite le rouge.
Oui.
Le gris et le rouge, ça, oui. Alors qu'avant, ça restait plus longtemps. Là, on est concentré.
On est beaucoup plus concentré. L'attention, vous avez remarqué ça aussi.
Les oreilles qui ont vibré.
Oui, ça peut se faire.
J'ai eu une image.
Mais qu'est-ce que
j'ai posé une question à une femme mathématique et après j'ai eu une image, une table avec les...
Ah oui, il est venu une image.
Bon.
Alors, oui. Mais une image qui avait rapport avec la question ou aucun?
Oui, enfin, elle avait un rapport au point de vue mathématique.
Oui, au point de vue mathématique, oui. Alors, vous voyez très souvent. La pensée mise dans le scène joue le catalyseur et provoque une vision qui est plus nette que la pensée. Mais là, c'est une pensée auditive, la vision qui était visuelle, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un autre phénomène qui se produit et qui est beaucoup plus net. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Une expérience...
Moi, l'image était plus auditive, parce que j'ai pensé à...
Oui.
C'est vraiment entendu de façon beaucoup plus précise.
Ah oui, c'est-à-dire cette combinaison entre la pensée et le prosème qui donne à la pensée une densité qui paraît aussi grande que celle du physique, bien qu'on sait que ce n'est pas physique. Mm-hmm. Non, c'est ça qui s'est produit.
C'est vraiment très net.
C'était très très net. Alors vous comprenez que, par exemple, on se souvient d'un événement en fonction de l'émotion qui nous a causé. Parce qu'un enfant qui est sur un texte qui l'ennuie, il est resté des heures, mais il ne le retiendra pas bien. Mais si vous conduisez et que devant vous, il y a un accident, vous freinez à temps pour qu'il ne rentre pas dans le carambolage, mais vous vous souviendrez de tous les détails à cause des émotions que vous avez eues. Donc, le fait que votre pensée vous est parue beaucoup plus nette, elle va mieux rester dans la mémoire. Et quelqu'un tout à l'heure, pour l'expérience précédente, allait dire, vient davantage de détails. Alors, vous voyez, action sur la mémoire, l'évocation, et action sur la mémoire, l'application. Rien que la mémoire, vous voyez combien de fois dans la vie on se dit, tiens, si je m'étais souvenu de ça à temps, j'aurais agi tout autrement et puis j'aurais profité d'une bonne circonstance. Hein. Alors c'est très important la mémoire, c'est un lieu commun, c'est pas que je vous le dise. Mais c'est vous dire que c'est un des éléments qui font que les personnes qui pratiquent l'initiation sémique réussiront mieux que les autres, statistiquement, parce qu'elles ont davantage de mémoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, une fois que vous avez créé les contacts neurologiques, surtout pour l'attention, vous avez remarqué l'attention plus fort, n'est-ce pas? Une fois que vous avez créé les contacts neurologiques qui permettent le transport de l'énergie de la pensée au prosème, il reste formé. Et vous avez remarqué la plus forte attention, eh bien, si vous pratiquez une initiation sémique un petit peu tous les jours, matin et soir, par exemple, votre attention va rester plus forte entre les séances. Alors, combien de temps? Il faut quand même un minimum d'un quart d'heure. Hein, quart d'heure. Maintenant, il faut poser le problème un peu autrement. Il faut dire, en fonction de mon genre d'existence, combien de temps puis-je consacrer aux exercices? Et puis aussi, on se rend compte qu'il y a une foule de circonstances de la vie où on peut faire subrepticement un petit peu de prosélytisme sans que les personnes s'en aperçoivent. Donc, quand il y a du soleil en marchant, mais pas en traversant quand même, pas en traversant. Mais en marchant, on peut très bien fixer le soleil 2-3 secondes et répéter une pensée, et puis après, on baisse un peu la tête. On évite quand même le réverbère, et on continue, on garde les yeux mi-ouverts, on voit quand même le phocène, on peut continuer. On est relativement très sage, vous savez, vous pouvez refuser. Il y a des enfants à bouger, parce que là, ils sont des gentils. Hein. Bon. Alors, par exemple, un tout petit détail, J'avais même pas besoin de le dire, parce que pendant longtemps, je donnais des cours chez moi, quand j'étais encore médecin exerçant. Alors, je compte ça comme consultation de psychiatrie à la sécurité sociale, enfin de psychologie, ce que vous voulez, à la sécurité sociale, ils ont fini par me payer, donc je n'étais pas classique. Mais les gens, j'avais pas besoin de leur suggérer. Ma journée, quand ils allaient comme ça aux toilettes, hein, et ben, en attendant ce que vous deviez, ils faisaient un peu de prosélytisme avec la lampe. Et alors on trouve facilement mille petites occasions dans la journée d'en faire un petit peu, et on sent trop bien, on sent qu'on s'emplit d'une pensée nerveuse. Hein. Alors, on va faire une troisième expérience, la science sur le caractère sur les prosélytes. Parce que ce qu'il y a de sensationnel, c'est que la pratique du mixage prosélytique améliore énormément le caractère. Il y a des familles où les enfants se disputaient, par exemple, à partir du moment où on leur a fait faire du prosélytisme ensemble, ils se sont bien entendus. Et je vous raconterai des trucs après, quand vous aurez fait l'expérience. Donc vous pouvez, cette fois-ci, nous allons associer l'image mentale visuelle et l'image mentale auditive. Vous allez choisir une personne avec qui vous voulez améliorer vos relations, qu'elle soit bonne, moyenne ou neutre, mauvaise ou neutre, moi ça m'est égal. Hein. Vous allez vous représenter son aspect visuel, mais pas seulement l'aspect visuel. L'aspect auditif, c'est-à-dire des paroles que vous avez entendues prononcer à la personne. Et parce qu'on ne choisit pas sa taille ou la couleur de ses yeux. Mais on choisit ces paroles, et chacun de nous est très sensible à l'intensité du sentiment que ses propres paroles provoquent sur lui-même. Donc vous êtes plus en contact avec le psychisme d'une personne par les paroles que vous avez entendu prononcer, avec son intonation, que simplement avec l'aspect visuel. Et quand vous aurez fait cette double évocation pendant la présence du phosphène, vous lui parlerez mentalement comme à travers le phosphène. Si ce n'est pas des points. Alors, on peut rallumer. Alors, quelle remarque avez-vous à faire sur cette expérience? La densification de la pensée. Entendre la personne, comme c'est arrivé à Madame aussi, n'est-ce pas? Le son devient aussi vrai que du physique, bien qu'on sait que ce n'est pas physique. Qu'est-ce qui a remarqué la plus grande proximité psychologique avec la personne? Vous avez remarqué aussi,
n'est-ce pas? Oui, disons affective.
Affective, c'est ça. Mais oui, justement, ah oui, un sentiment intensifié. Et ceci est vrai dans tous les domaines. Par exemple, j'avais une employée dans une banque qui avait éprouvé une telle angoisse devant son chef de service qu'elle envisageait de quitter son poste bien qu'elle n'avait pas par ailleurs. On m'a envoyé à cause de cela. Je lui ai dit de mettre son chef de service dans le phosphène pendant un mois et de venir me retrouver après. Elle l'a fait. Et elle m'a dit que ça lui avait donné l'idée de faire intervenir un chef supérieur d'une façon qu'il ne pouvait pas avec le chef direct pour une séance. Et puis, je suppose que ça lui avait donné une assurance calme et qui avait influencé favorablement le chef. Probablement que tout s'était arrangé comme par miracle.